Tu l'as vu ?
Quoi ?
Eh, tu l'as vu ?
Mais quoi ?
Bah l'actu.
T'as vu l'actu ? Tous les samedis de 17h à 18h dans la tribu. La jeune et moins jeune rédaction décortique l'actualité locale, nationale et internationale.
Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
À Dunfer, un mot d'ordre a été lancé. Occupez le quartier latin.
Réalisation d'interviews, accueil d'invités, correspondants étrangers, direct.
La tribu, l'information autrement.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de T'as vu l'actu, et on va proposer une émission spéciale du coup avec les événements qui se passent en Ukraine. Pour m'accompagner, il y a du coup Corentin. Corentin, bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Ah bon, on t'entend pas, Corentin.
Bonjour, bonsoir.
Ah, voilà. Et également, du coup, on a Romain. Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Et du coup, on a Marius. Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
C'est bon, j'ai tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben, on va faire une émission, en fait, spéciale Ukraine. Vous avez des choses à ajouter pour présenter cette émission ou pas ?
Non, rien.
Pour l'instant, rien. On va commencer.
Et bah, du coup, je te propose, si tu le veux bien, Romain, de commencer.
Oui, bah, du coup, j'avais préparé une petite introduction par rapport à ça, parce que la semaine dernière, on pensait encore que les solutions diplomatiques qui pouvaient susciter la désescalade des tensions qu'on pensait dépasser par ces conflits territoriaux du siècle dernier. Et où on pouvait retenir les erreurs du passé, l'histoire nous a de nouveau rattrapés ce jeudi 24 février 2022, lorsque, après des années de conflit, la Russie déclare officiellement la guerre à l'Ukraine. Alors cette déclaration de guerre s'est faite vers 4h du matin, lors d'une allocution télévisée surprise par le président Vladimir Poutine. Et puis des explosions se font entendre dans les villes d'Odessa, de Kharkiv, de Kiev, capitale ukrainienne, dans l'heure qui a suivi cette allocution. Les premières troupes russes pénètrent sur le territoire ukrainien et vers 8h depuis la Russie. Par la région séparatiste du Donbass, la Biélorussie et la mer Noire via la Crimée qui avait été annexée en 2014. Donc il y a eu les premiers bombardements russes qui ont touché plus d'une vingtaine de villes au cours de la journée, des bases militaires et aériennes. La première réaction a été celle d'Antonio Guterres, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le secrétaire général de l'ONU. Les forces armées ont également pris possession symbolique de la centrale nucléaire de Tchernobyl et son personnel en otage. La mer d'Azov a été quant à elle fermée à la navigation. 2000 manifestants anti-guerre à Moscou et Saint-Pétersbourg ont été arrêtés.
On avait des petits soucis de casque, on va dire tout.
Ah,
c'est pour ça que ça. Il y a beaucoup d'allées et venues dans ce studio.
Ouais.
J'avais oublié les casques. Bah oui, personne n'est parfait. J'étais parfaite, vous ne m'aimeriez pas. Donc voilà.
Et donc du coup.
Maintenant ça va mieux, tu t'entends, Romain.
Oui, je m'entends.
Voilà.
Mais ça a pu se faire. Et donc du coup, il y a donc c'est déjà pas mal. Et face à ceci, le président ukrainien Zelensky a déclenché la loi martiale dans le cas d'une guerre sur tout le territoire ukrainien. Donc les réactions sont évidemment internationales, avec une réunion d'urgence du G7, du Conseil de défense de l'Elysée. Il y a également eu une évacuation des membres de la mission d'observation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui se situait en Ukraine. L'évacuation de de 100 000 premiers réfugiés ukrainiens en Europe centrale qui ont été accueillis en Pologne, en Hongrie et dans les pays baltes. Également la réunion des 27 chefs d'État de l'Union européenne dans un sommet au Conseil européen à Bruxelles. La mise en place d'un couvre-feu de 22h à 7h du matin à Kiev. L'appel évidemment à la mobilisation générale contre les forces russes. Donc ça c'était la première journée. Donc les conséquences économiques évidemment ont été observées dès la journée du 24 février. Avec l'effondrement notamment des bourses mondiales. C'est un relevé hein, des grandes villes. À 12h, heure de Greenwich, Moscou était à moins 35%, Varsovie moins 10%, Francfort moins 5,17%, Paris moins 4,59%, Milan moins 4,43%, Hong Kong moins 3,21%, Londres moins 3%, Séoul moins 2,60%, Sydney moins 2,36% et Tokyo moins 2%. Est-ce que je continue sur la journée du 25 janvier ?
Non, on peut peut-être avancer un peu parce que c'est vrai que là.
Oui, de toute façon, il y a eu d'autres sommets, d'autres réunions. Alors, voilà. Il faut savoir que la semaine dernière, pour revenir un petit peu au contexte proche, on pensait à un désescalade avec des appels téléphoniques, des annonces presque de négociations. Et même de retrait des troupes russes envisagées par Poutine en échange de négociations avec l'Occident. Et pourtant, ce week-end, on a pu voir qu'il y avait une reprise, notamment des conflits entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. Des bombardements, notamment dans la ville de Stanislavlouhanska. Près du Lugansk, qui a touché une école maternelle et fait 3 blessés. Donc c'est par ce bombardement assez symbolique qu'ont repris ces affrontements. Alors, c'était lundi soir.
Oui.
La Russie a déclaré officiellement reconnaître les États
lundi
indépendantistes.
Oui.
Et donc, du coup, ça a entraîné de vives tensions. Et ça a permis à la Russie d'approuver ce pays comme un allié à défendre.
Ces deux pays.
Ces deux pays, oui, à défendre. Et lui a permis de pouvoir faire ses premières interventions militaires sur ses territoires.
Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui nous sommes le 26 février.
Jusqu'à preuve du contraire.
Ouais.
Et nous sommes en 2022.
Exactement. Alors là, les forces russes se rapprochent malheureusement de la capitale ukrainienne. Pour l'instant, aux dernières actualités, ils n'ont pas encore atteint la ville. Mais il y a eu une multiplication des frappes de missiles, notamment dans des logements sociaux, des habitations. Une perturbation du réseau Internet et de Facebook par les autorités russes, afin de limiter la communication avec l'extérieur. Et par la dénonciation de la Russie de fausses informations pro-occidentales. Il y a eu... pour l'instant, c'est... La Russie a également envisagé la suspension de la coopération entre Roscosmos de l'Agence spatiale européenne et des lancements de ses fusées au centre spatial de Kourou.
Et donc, pour l'instant, ce qu'on en sait, on a vu ça sur le site de France Info, c'est qu'il y avait près de 200 civils qui ont été tués. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été blessées. Et du coup, il y a également plus de 100 000 Ukrainiens qui sont arrivés en Pologne. Voilà, c'est des chiffres un peu qui concernent la population locale. Et voilà, donc je pensais que c'était important aussi de le souligner. Oui, Corentin.
Et là, je viens tout juste de voir que le maire de Kiev, placé à l'instant, Kiev sous couvre-feu jusqu'à demain matin 8h, et que toutes les personnes qui sont actuellement dans les rues de Kiev seront considérées comme des membres des groupes de saboteurs ennemis. Ils seront donc probablement tués ou faits prisonniers.
Oui, parce qu'actuellement il y a des échanges de tirs en fait sur Kiev, vous imaginez bien. Et du coup il y a le métro qui a été transformé en abri pour les habitants en fait qui depuis ce matin en fait dans la nuit se réfugient en fait à cet endroit là. Et puis voilà.
Il y a un enfant qui est d'ailleurs né qui s'appelle Mia, une petite fille qui est née
dans le métro,
dans la nuit dans la station de métro.
Mais c'est bien des informations un peu plus
joyeuses.
Ouais.
La pauvre.
Détendue, on va dire.
Ouais, c'est surtout ça.
Non, et puis je crois qu'aussi que la mairie de Kiev a décidé de suspendre les activités du métro de Kiev. Juste, voilà.
Bah oui, c'est ça.
D'accueillir encore plus de monde dans les tunnels.
C'est ce que je disais. Enfin, j'ai pas été très clair, je suis désolée.
Mais faut aussi dire que les métros en Ukraine, de Kiev et Kharkiv, sont à plus de 100 mètres de profondeur, donc ça fait des très bons abris anti-aériens, contrairement par exemple au métro de Paris qui est généralement à peu près sous la rue, pile sous la rue, et là c'est vraiment, on va dire, plus adapté.
Donc là on va dire que les taux se resserrent, c'est pire que tout. Enfin voilà, il y a...
C'est toujours pire.
Non mais on a passé une deuxième vitesse, on va dire, par rapport au début.
Oui.
En début de semaine, donc c'est lundi, moi j'ai souvenir de lundi après-midi.
Lundi après-midi, ils ont envisagé qu'ils pouvaient choisir de la reconnaissance de l'indépendance ou non. Et il a confirmé le soir.
Voilà. Donc du coup, on savait à ce moment-là que c'était parti pour la guerre. Comment avez-vous appris cette information et est-ce que vous l'avez apprise dès lundi soir, Corentin?
Oui. Attendez, je réfléchis.
Oui, parce que c'est long, c'était il y a une semaine.
Ah oui. Non, je crois que je l'ai appris à la télé. Je devais regarder une chaîne d'infos en continu.
D'accord. Et alors, t'as ressenti quoi?
Au début, j'ai... Comment dire? Je pensais plus que... J'en avais parlé avec d'autres gens. À un scénario plutôt de type Géorgie, comme en 2008. En fait, ils allaient attaquer, mais pas aller faire ce qui... aussi global et intense que ce qu'ils ont fait. Et puis, je pensais pas... qu'ils assumeraient autant la guerre que ce qu'ils font. Parce qu'au début, ils disaient juste que c'était du maintien de la paix. Or, il n'y a aucun maintien de la paix dans ce qu'ils font.
C'est clair. Marius.
Comment je l'ai su?
D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Marius.
Oui.
bon
joyeux,
anniversaire, Marius.
Joyeux anniversaire.
Sans transition aucune.
Comment j'ai su que l'invasion a commencé?
Oui. Lundi, quand tu as appris la nouvelle, est-ce que tu l'as apprise, cette nouvelle, dès lundi soir?
C'était le soir?
Oui.
Oui, c'était le soir. Non, on parle de l'indépendance.
Ah, parce que je l'ai su le lendemain après-midi.
D'accord.
En me levant et...
Le lendemain matin, donc, à moins que tu te lèves très tard. T'as dit le lendemain après-midi?
Oui. Non, le lendemain matin. J'étais pas spécialement choquée, même si les médias ont tendance à toujours un peu exagérer. Enfin, parfois, je trouve, à employer les plus grands mots possibles. Mais là, quand ils ont annoncé ça, ils ont parlé que de ça, surtout sur la radio que j'écoutais. Et puis en plus, j'avais pas suffisamment d'informations sur ce qui s'était vraiment passé pour ressentir une émotion assez forte, comme par exemple. Évidemment, on est triste quand on apprend qu'une invasion commence, mais je savais pas vraiment ce qui se passait.
Romain.
Concernant.
Punition.
Alors, concernant lundi, je m'attendais pas trop à. Enfin, en fait. Depuis deux semaines, je me suis dit que ça commençait un petit peu à être, on va se parler franchement, la merde. Parce que dans la semaine, on pensait qu'il y avait des escalades diplomatiques et dans le week-end, des escalades des tensions avec des menaces russes et des trucs comme ça. Et c'est vrai que je m'attendais quand même pas à ce qu'il y ait si rapidement la reconnaissance de ces états-là, il y avait de plus en plus de chances. Et le fait qu'il y ait ce contexte-là avec les mêmes tensions entre l'Ukraine et les États indépendantistes, alors qu'ils avaient menacé juste après l'Ukraine s'il y avait de nouvelles attaques contre les États indépendantistes, je me suis dit ça sent pas bon. Donc oui, c'est très très étrange. Et bon, après, je me suis dit, j'y crois pas trop quand il parlait de désescalade, militaire. Et j'ai appris ça pour l'invasion quand j'étais au lycée, hein, comme beaucoup, je dis. Et c'est vrai que je trouve ça, moi, ça me fait peur. Parce que je me dis, il y en a qui disent on n'est pas concerné par ce qui se passe là-bas, mais bien sûr que si. Mmh. Que ce soit économique, diplomatique, le problème c'est que on les laisse faire là-bas, et puis après, ça arrive chez nous, quoi. Et puis on se rend compte qu'on revient à des conflits qui risquent d'avoir des proportions bien, bien plus grandes que celles qu'il y a aujourd'hui.
Marius,
ma question c'était comment ils s'appellent déjà les États indépendantistes ? Est-ce qu'ils ont été reconnus comme des nations souveraines ou ?
Alors c'est Corentin. En entier, c'est République populaire de Lugansk et République populaire de Donetsk qui sont dans le Donbass.
D'accord. C'est des nations souveraines maintenant ou...
Non. Officiellement, c'est toujours, on va dire. Deux oblasts, donc deux régions ukrainiennes, parce que notamment elles sont reconnues que par la Russie, mais également, je crois, la Syrie s'est dit prête à les reconnaître, les fausses républiques de Abkhazie et Ossétie, qui sont à peu près la même chose en Géorgie. Il y a également le Nicaragua, le Vanuatu, Nauru, le
Venezuela, Cuba.
Voilà, ceux-là. Il y a aussi
Kazakhstan.
Non, je crois que le Kazakhstan
non.
Okay. Je crois que c'est à peu près tout.
Je te fais totalement confiance, Corentin, ouais, sur ce sujet. Voilà. Moi, Adelie, je me pose la question à moi-même, puisque Corentin ne me la pose pas. Moi, je l'ai appris très vite. Et en fait, j'étais vraiment très surprise, et je crois que pendant plusieurs jours je voulais pas voir, parce que j'ai toujours, jusqu'au dernier moment, contrairement à Romain qui dans le week-end se disait oh là là, pardonnez-moi cet exprès, non je peux pas le dire à l'antenne, ça sent le roussi,
oui,
moi j'ai cru, non c'était pire, je vous la dirai pendant la pause musicale, du coup je me disais, je croyais très fort en fait à la diplomatie, oui. Jusqu'au dernier moment, honnêtement, j'ai pas vu du tout le truc, je me suis dit non c'est du flan. Donc, je m'étais bien trompée. Et pour moi, ça me paraît tellement énorme et tellement... Parce que c'est la guerre, en fait. Et notre génération n'a pas été confrontée, jusqu'à présent, à une guerre. Donc, c'est vrai que c'est particulier quand même. Enfin, ouais. Donc, j'ai mis du temps à le réaliser. Il y avait Marius avant toi, Romain, qui voulait réagir.
Mais en plus, qu'est-ce que je voulais en dire le truc c'est que quasiment en France et même dans les autres pays européens, quasiment tous les politiques disaient que ça allait être bon, qu'il allait avoir une discussion et que ça allait s'apaiser. Puis il y avait aussi beaucoup de spécialistes qui affirmait que de toute façon, si Poutine faisait ça, menaçait d'une guerre et amassait des soldats aux portes de l'Ukraine, c'était une sorte de... pas de dissuasion, je sais plus... quelque chose comme ça pour convaincre...
Oui,
et
c'est dans le cadre de la diplomatie. Voilà. Moi aussi, je me disais que c'était
pas
juste
du tout.
Pour intimider,
c'était
en fait.
Juste pour... déjà,
c'était vraiment pour le faire.
Ça intimidait dans un premier temps l'Ukraine et ensuite ça l'a terrorisé parce qu'ils ont commencé à envahir. Et en Europe, beaucoup de spécialistes et beaucoup de politiciens affirment que c'était juste une technique.
Les spécialistes.
Corentin ?
Il n'y a que les États-Unis qui ont eu raison sur ce coup-là. C'est vrai, on peut
mais
dire que les
dramatiser aussi.
Oui, les États-Unis ont peut-être beaucoup dramatisé, mais en même temps,
c'est la guerre.
Ils ont eu raison. Ils ont eu raison sur ce coup-là, parce qu'il y a même le président ukrainien qui disait que les États-Unis dramatisaient trop, et je pense que tout le monde pensait que voilà, c'est les États-Unis, ils en font des tonnes parce que c'est la Russie. Finalement, ils ont eu raison. Et je pense en fait, dans tous les cas, ils avaient raison. Soit ils dramatisaient, puis il se passait rien, ils disaient c'est pas grave, c'est les États-Unis, on a l'habitude, et puis là, ils ont raison.
Romain.
Bah après, faut peut-être se demander aussi, est-ce que le fait que les États-Unis aient dramatisé sur la situation n'ait pas accéléré l'escalade diplomatique entre la Russie et le monde occidental ?
Corentin ?
On n'en sait rien.
J'ai l'impression de faire un match 2 en disant les noms. Alors, la passe est...
Je peux juste faire un geste.
Oui, mais c'est comme ça, l'auditeur, il sait qui parle. Ah, il y a des gens qui nous écoutent, en fait.
Non, mais oui, mais on reconnaît la voix.
Mais
bah,
en
je
fait,
sais pas.
Après,
donc, Corentin, pardon.
D'après certains... T'improvises pas une guerre comme ça. Si ça se trouve, c'est prévu depuis des années. Certains pensent même que c'est prévu depuis l'invasion de la Crimée en 2014.
Ah mais oui.
Et tout ça, ça a peut-être servi à rien. Ou au contraire, ça a peut-être reporté, parce que comme ça, tous les Européens ont dit, on va faire plein de diplomatie, et puis ça a peut-être reporté. Après, il y a aussi... ça a peut-être faussement reporté avec les Jeux Olympiques de Pékin, parce que la Chine voulait surtout pas que sa trêve olympique soit rompue, et on a bien vu que c'est arrivé presque aussi. La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques,
oui,
c'était
dimanche
à midi, et puis
juste le lendemain.
Et puis là on dit que peut-être que dans une semaine, non
la
mais
Chine
moins d'une semaine,
non
mais dans moins d'une semaine il va y avoir les Jeux paralympiques, et on va se demander comment la Chine va réagir si la Russie continue de faire la guerre pendant ces Jeux paralympiques, parce que la Chine veut un peu être sur le devant de la scène. Et je pense pas qu'elle va aimer que son espèce d'ami lui vole la vedette.
Oui, puis qui dit que la Chine va pas participer au conflit une fois que la trêve olympique dans son pays sera achevée.
Oui. Après, la Chine a fait vraiment aller peu incompréhensible. Tout le monde pensait qu'elle allait voter contre, et finalement elle s'abstient. Elle rappelle aussi à la Chine qu'il faut préserver l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Et là, petit à petit, elle est de plus en plus... elle donne l'impression de lâcher la Russie. Bon, pas pour autant se rapprocher des Occidentaux, mais surtout d'être neutre, de un peu... En fait, d'une certaine façon, elle dit, vous faites votre guerre entre Occidentaux. Nous, on n'est pas Occidentaux.
Romain ?
Puis c'est vrai que c'est fou comme le truc qui s'est accéléré, parce que, bah, perso, je suis le conflit depuis octobre dernier. Et c'est vrai que... Entre les entretiens téléphoniques, les tensions, les calmements, je sais pas si ça se dit comme
les
ça.
Les détentes,
voilà. C'est vrai que bon, ça paraissait stagner comme pas possible, et c'est vrai que en quelques semaines, on a l'impression qu'il y a eu une escalade incroyable. Mais je pense que cette guerre est préparée depuis des années, et que la Crimée en 2014, toute cette histoire-là, c'était finalement le début de cette escalade.
Comme la Géorgie en 2008.
Et donc, du coup, on peut se demander le rôle de l'Europe aujourd'hui. On va en parler juste après la pause musicale. Romain, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, la musique qui suit ?
Alors oui, donc cette chanson est une chanson...
Parce que comme c'est un truc de vieux, je voudrais bien préciser que ce n'est pas moi qui ai choisi ce titre.
Oui, et bien cette chanson fait partie des anciennes chansons qui peuvent être toujours d'actualité. C'est la chanson Forever Young d'Alphaville qui date de 84 quand même.
Tu n'étais pas né, moi non plus.
Ne pense pas que j'étais né, non. Et en fait, c'est une chanson qui a été faite pendant une période d'apogée des tensions dans la guerre froide et sur la crise des... le risque nucléaire, la crise des missiles, tout ça. Et donc, c'est une chanson sur l'espoir de la jeunesse dans un conflit finalement perpétuel entre les grandes puissances au détriment de personnes qui souhaitent vivre librement.
Let's dance in style, let's dance for a while.
T'as vu l'actu ?
La suite ?
La suite de T'as vu l'actu et ses synthés des années 80, ah là là. La suite, eh bien, on parlait de l'Europe, justement, la place de l'Europe dans ce conflit ukrainien. On rappelle que c'est une émission spéciale guerre en Ukraine de T'as vu l'actu. Et donc, on continue avec Marius.
Alors, puisqu'on parle du rôle de l'Europe dans cette guerre...
enfin, on va en parler.
Oui. Qu'on peut appeler... Je ne sais pas si on peut appeler russo-ukrainienne.
C'est si, possible si.
Oui. Bon,
alors, non, la... parce que tu as aussi un peu le Biélorussie la
oui, non, mais voilà,
qui vient mettre
c'est la mer Macrel.
Si on est bête comme moi... Ouais.
Bah, les principaux acteurs, c'est la
voilà,
Russie et l'Ukraine.
Quand même.
Oui, mais il y a la Biélorussie.
Non, parce que sinon, on peut inclure tous les pays qui ont parlé de ça, sinon. Hein,
mais... Non, mais la Biélorussie, elle est clairement du côté... De... Enfin, tu vois, elle a accueilli tout le monde.
Les alliés aussi de l'Ukraine, on pourrait.
Ils auraient rien fait par rapport à la Biélorussie.
Bah, la Suède.
Bon, la guerre.
Alors, oui, la guerre.
Stop.
La guerre avec un grand L. Donc, un Conseil européen a été réuni à Bruxelles, donc le 24 février 2022. Je crois que c'est le jour de l'invasion.
Oui.
Le lendemain, le jour. Non, le jour.
Non, c'est le jour.
Donc, j'ai entre mes mains la conclusion. Voilà. Alors. Comme je l'ai pas lu avant, je vais essayer de trouver des informations.
Mais non, mais faut rien dire.
De quoi ?
On ment aux auditeurs, tu
mais
sais,
oui.
Sans arrêt.
C'est
quoi,
ça.
Là,
alors, le Conseil, évidemment, le Conseil européen condamne avec fermeté les agissements et l'agression militaire russe et considère que cette action est injustifiée. blablabla. Ça, c'est très important de le préciser aussi. Alors.
De quoi blablabla?
Alors, le Conseil européen appelle à cesser immédiatement l'invasion russe.
Non.
Blabla. Et de retirer toutes ses forces et équipements militaires au plus vite en Ukraine. Ah oui, en fait, il n'y a aucune précision concrète là, c'est juste.
C'est un petit peu pour ça que qu'on avait parlé un peu de ça. C'était un petit peu le rôle de l'Union européenne en fait dans ce conflit. Au-delà de dire exactement les faits, voilà, c'était aussi une opinion globale en fait sur la place de l'Europe en fait dans la diplomatie.
Sinon, le but de ce Conseil européen pour la plupart des pays, il me semble, c'était de trouver un accord pour affaiblir l'économie russe, donc la Russie en général, avec de nombreuses sanctions.
Ça, c'est ma partie.
Bon. On me demande de dire des choses, alors je l'ai dit.
Non, mais tu peux parler des transferts d'armes.
Ah, parlons d'armes. On a envie de parler
des états d'armes.
Alors, je n'ai pas eu vent de ces transferts d'armes, alors je ne sais pas quoi vous dire.
Alors, si tu veux, je peux improviser vite
voilà,
fait.
Voilà, improvise.
Alors, par exemple, le Royaume-Uni qui a envoyé plusieurs centaines de systèmes anti-chars à bras. Enfin, tu vois, tu les portes sur ton bras et hop, ça envoie un missile anti-char.
Ah, faut avoir une sacrée force.
Ensuite, l'Allemagne a promis 5000 casques à l'Ukraine. 5000. Pourquoi 5000? Il y a la République tchèque qui promet pour 6000, qui va donner pour 6 millions d'euros d'armes de toutes sortes de systèmes anti-tanks, anti-aériens. Plusieurs munitions, fusils. La France promet, je crois, aussi près de 300 millions d'euros, aussi bien en armes qu'en vivres. Je crois, promet aussi un hôpital militaire. Je crois aussi la Suède, dans l'Union européenne, qui promet encore des armes. Et puis, tous les pays européens déploient toutes sortes de militaires, de bateaux ou d'avions dans la région.
Mais en fait, c'est très révélateur. Cette absence, tu ne trouveras pas forcément la réponse là-dessus. En fait, c'est l'absence de non-réponse. Vous voyez ce que je veux dire
Oui, parce que c'est juste un avis qu'ils donnent. C'est pas des propositions concrètes qui pourraient endiguer. Enfin, qui
donc
pourraient...
c'était là-dessus que je pense qu'on peut échanger sur finalement le poids politique de l'Europe au niveau mondial.
C'est vrai que ça se passe. L'Union européenne, elle a été parmi tous les objectifs qu'on lui a donné, c'est de défendre l'Europe au maximum et l'indépendance européenne. Sauf que là, on a un allié qui est dans notre continent. Géographiquement, il est dans notre continent. Il est pas dans l'Union, mais c'est notre voisin. Et c'est un énorme pays qui pourrait envahir toute l'Europe. Aujourd'hui on n'arrive pas à se défendre clairement parce que donner des armes, donner des casques, donner des équipements militaires, ça veut pas dire qu'on se défend, ça veut dire qu'on aide légèrement un pays. Et encore, je suis pas très bien renseignée sur ça, mais les initiatives qui sont faites entre les alliés européens, on dirait qu'elles sont désordonnées, qu'il n'y a pas eu de réelle concertation, de vrais contrats, par exemple, entre les pays, et que c'est un entraide qui a été fait, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais dans la cohue, la précipitation.
Corentin.
C'est qu'en fait, l'Union européenne doit maintenir la paix, mais sans faire appel à l'armée. En fait, elle a maintenu la paix en mettant en place tout un tas de coopérations économiques, en faisant en sorte que tous les pays européens aient le même niveau de développement, qu'il n'y ait pas de jalousie. Mais en fait, la sécurité et la défense, c'est pas dans ses compétences. Il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y a pas vraiment de personnes à la commission qui ont pour travail de faire en sorte de faire des initiatives pour harmoniser tout ça entre pays européens. Il y a des initiatives d'armes européennes, mais c'est vraiment des accords entre les États, notamment le remplacement du Rafale, qui sera fait avec un accord France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni. Donc déjà, il y a un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Et ensuite, pourquoi on ne va pas aller chercher les Suédois ou encore, les Polonais? Donc c'est vraiment que des initiatives, parce que ce n'est pas dans ses compétences.
Romain?
Puis même du côté de l'OTAN, il y a le fait qu'elle a le droit d'intervenir, je pense, que dans les États qui font partie de l'organisation. Sachant que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, du coup, ils sont obligés d'intervenir dans des pays voisins de l'Ukraine. Mais le problème, c'est que Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il compte intervenir, en fait.
Oui, c'est bizarre.
Parce que d'un côté, je me dis, ouais, on veut éviter une guerre, parce que ça mérite le débat, au final, de savoir s'il faudrait envoyer ou non des troupes militaires directement en Ukraine contre la Russie, au risque de déclencher un conflit mondial, il faut le dire.
Voire une guerre nucléaire.
Bah, exactement. Puisque la Russie est quand même une grande, grande puissance nucléaire. Et est-ce qu'il faut laisser ce pays se faire détruire pour maintenir une soi-disant paix qui est finalement illusoire ?
Marius ?
Alors, c'est très rapide. C'est juste pour compléter ce qu'a dit Corentin sur les dons d'armes qui sont faits à l'Ukraine. Aujourd'hui, donc Prague, la capitale, de la Slovaquie,
de la République tchèque.
Oh,
mais...
oh là là.
La Tchéquie.
La Tchéquie.
Mais République tchèque, ça
oui, c'est République tchèque.
Les deux.
Oui, mais
oui,
je préfère
savoir,
République
hein.
tchèque. Et donc aujourd'hui, le gouvernement tchèque a annoncé faire don de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision. Alors ça, je sais pas ce que ça signifie. Je suis pas assez expert en armes pour le savoir. De pistolets et de munitions. Et le tout pour une valeur de 7,6 millions d'euros. Donc ça c'est rapporté du Figaro, voilà.
Corentin.
Parce qu'en fait l'OTAN c'est une alliance défensive. Elle est pas faite pour attaquer. C'est pas dans.
Mais là justement.
Eh ben il faudrait.
Oui mais elle peut pas défendre ce qui est. En fait elle est faite pour défendre ses membres.
Le problème c'est
elle est pas faite pour intervenir ailleurs.
Mais est-ce que là il y a
c'est
pas
dans ses compétences.
Tant qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire. Russe, par exemple, en Pologne ou
en Roumanie,
dans des pays membres de l'OTAN, l'OTAN ne peut pas réagir contre la
voilà.
Russie.
Le seul moyen qui est vraiment quelque chose, c'est d'avoir une résolution de l'ONU, comme ce qui s'était passé en Irak. Et là, il y a même tous les autres pays du monde qui pourront intervenir comme ils veulent.
En amont, quand Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine, il vient au nom de l'Europe, au nom de la France.
De l'Europe.
Moi, j'avais plus l'impression qu'il venait au nom de la France.
Bah après, alors on a trois avis différents, je m'attendais pas, je m'attendais à deux avis différents, mais les trois.
Maintenant que j'ai réfléchi, il est obligé de porter la parole de l'Europe puisque il a pris la la France a pris la présidence de l'Union européenne, mais j'ai l'impression, qu'il a pris surtout la défense de la France.
Bah non, mais c'est surtout qu'en fait quand on, alors c'est peut-être une vision des médias aussi, mais c'était quand on le voyait, c'était quand même au nom de la France, non ?
À la base.
Oui, mais il est obligé.
Mais après,
de
c'est peut-être mis en scène pour montrer qu'il avance. Parce que c'est bien, il va bientôt se lancer en campagne.
Ouais, j'espère.
Et pour montrer qu'il a avant tout le président.
Enfin, j'espère. Enfin,
non. Ça peut porter à confusion.
Oui, je sais.
Dis-donc.
Parce que s'il le fait, ça signifie que la guerre en Ukraine, ça pèse.
Oh.
Je normalement,
sais il sera obligé de le faire d'ici le 4 mars, de toute façon.
Mais en même temps.
Non, on change de sujet là.
Oui, stratégiquement, je pense que
c'est au nom de la France. Non, mais encore une fois, moi j'ai l'impression, même quand on regardait les médias étrangers, en Angleterre, ou voilà, moi qui lis régulièrement le Times aussi, en fait, on se rend compte que. Que c'était en tant que France, enfin, et donc ça montre encore l'absence de sur la scène européenne, sur la scène mondiale de l'Europe, oui, non?
Bah, on marque beaucoup d'incohérences et de manque d'union dans cette Union européenne.
Bah oui, enfin, même cette transparence quand même, parce que bon,
bah, oui.
Les sanctions, on va en parler juste après, mais
oui.
L'Eurovision, c'est bien, mais interdire la Russie d'Eurovision, est-ce suffisant ?
C'est même pas européen l'Eurovision, c'est au-delà.
Oui,
parce
non,
que tu vois, t'as Israël, t'as l'Australie, je crois.
L'Australie.
Ouais. Ouais, enfin bref, ceci est un
non,
autre débat.
Mais
oui,
même, tu vois, par exemple, pour l'Union européenne, déjà, c'est pas dans ses compétences. Ensuite, va essayer de mettre 27 pays sur le même truc. Déjà, là, on est trois, on a trois avis différents. Alors, avec 27 pays.
C'est leur taf.
Oui. Tu vois, par exemple, entre nous, qui est un pays centriste.
Oui, mais nous, c'est pas notre travail, hein. Je veux dire,
on
va dire qu'on
peut, hein. On va dire qu'on est un pays centriste. Par exemple, tu vas en Allemagne, t'as une coalition rouge, vert, jaune. Tu vas au pays, tu vas en Belgique, c'est compliqué, leur truc. Tu vois, aux Pays-Bas, t'as à peu près une sorte de centre droit. Tu vois, en Pologne et en Hongrie, t'as presque l'extrême droite. Tu vas en Espagne,
presque.
T'as... On va dire presque, hein, parce que c'est une, on va dire à droite décomplexée.
Ouais.
Oh bah non.
Non, ils sont pas non plus comme. En fait, si on compare par exemple à Zemmour, je trouve qu'ils sont pas aussi loin.
Bon, pas très crédible.
Alors, d'après, tu vas en Espagne, au Portugal, t'as une gauche, on va dire, du style Parti Socialiste. Donc, va mettre tous ces gens ensemble. Déjà que nous, avec 10 candidats, ils sont incompréhensibles, avec 27 chefs d'État. Et ensuite, je trouve l'Union Européenne, c'est un peu le contraire de la Russie. Tu vois, la Russie, c'est un nain économique. C'est 1000 milliards de PIB, c'est le PIB de l'Espagne. C'est 10 000 euros de PIB par habitant. Quand, par exemple, la France, c'est presque 40 000. C'est 140 millions d'habitants. Et cette année, elle a perdu plus d'un million d'habitants. Alors que l'Union européenne, c'est la première économie du monde. C'est 450 millions d'habitants en hausse constante. Et par contre, c'est aucune armée. Et que la Russie, c'est une énorme armée. C'est une énorme diplomatie. Et l'Union européenne, c'est pas de diplomatie. Là où la Russie est forte, l'Union européenne, elle est nulle. Et là où la Russie est vraiment en mauvaise forme, l'Union européenne est très forte.
Eh bien, je vous propose de faire une pause musicale dans la tribu. Ne me regarde pas comme ça, Corentin. Là, c'est moi qui ai choisi la musique. Chacun son tour. Et c'est un groupe qui s'appelle REM qui n'existe plus non plus. Cette chanson, c'est It's the End of the World, parce que moi, je suis très optimiste. C'est la fin du monde. Et elle date de, 4-5 ans après la tienne, Romain. Donc, petit à petit, on remonte le fil du temps.
It's the end of the world as we know it. T'as vu l'actu ?
Ça continue.
Et ça continue dans la tribu. Mais c'est censé continuer avec Marius. Alors, je sais pas, on a perdu Marius.
Donc, il nous abandonne.
Il nous abandonne. Mais non, en fait, je dis n'importe quoi en plus.
T'avais dit que c'était les sanctions.
Bah oui, Corentin, je t'ai oublié.
Oui.
Non, tu es inoubliable, Corentin. Donc, hormis être viré, lamentablement, de l'Eurovision.
T'as fini avec ton Eurovision.
Oh, ça va, c'est bon.
Peut-être qu'on a des chances
hein.
de gagner.
Peut-être. Du coup, quelles sont les autres sanctions qui ont été prises contre la Russie ?
Alors déjà, on va rappeler que depuis l'invasion de la Crimée en 2014, le bloc occidental a mis en place un certain nombre de sanctions contre l'État russe, ses oligarques et ses entreprises, comme le gel de nombreux actifs. Mais depuis quelques jours, la Russie est visée par des sanctions sans précédent, qualifiées par plusieurs experts ou chefs d'État d'historiques. Ces 30 sanctions, comme les désigne.
Oh, ça va là, Corentin.
J'y arrive plus.
Bah oui.
Comme le dit le président Joe Biden, vise toujours les mêmes grandes entreprises, oligarques, députés, mais aussi pour la première fois Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et Vladimir Poutine. Ces sanctions sont surtout mises en place par ce bloc occidental, composé surtout des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. On peut également trouver Singapour ou d'autres pays. Les pays du bloc se sont mis d'accord sur des sanctions communes, mais chaque pays a ensuite pris des sanctions spécifiques. Tout d'abord, pour les mesures communes, elles visent principalement les 351 députés russes ayant voté pour l'indépendance des deux républiques populaires du Donbass, mais également le gouvernement russe et plus de 550 oligarques et responsables militaires qui voient leurs avoirs gelés dans tous ces pays occidentaux. Et ces pays occidentaux interdisent l'achat de dettes russes par leurs institutions financières ou leurs particuliers. Ensuite, pour l'Union européenne, après ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des 27, les entreprises et l'État russe ont interdiction d'accéder au marché financier européen. Les quelques 900 personnes visées précédemment ont interdiction de rentrer dans l'Union. Par ailleurs, un certain nombre d'exportations sont interdites, comme celles d'équipements aéronautiques ou de produits technologiques, et les transferts de technologies vers la Russie sont maintenant interdits. L'Allemagne gèle le projet de gazoduc Nord Stream 2. C'est un gazoduc à 10 milliards d'euros qui est censé approvisionner l'Allemagne en gaz naturel russe. Cependant, cette mesure devrait priver l'Allemagne d'une bonne partie du gaz russe qui représente 50% de sa consommation. Mais ça devrait aussi gêner la Russie, qui devrait être coupée d'une importante manne financière. Au Royaume-Uni, les sanctions européennes ont été suivies, mais les mesures contre les 5 grandes banques russes sont amplifiées avec le gel des avoirs de ces banques, et également les citoyens russes voient leurs dépôts dans les banques britanniques limités. Le Japon et la Corée du Sud interdisent tout échange commercial avec la Russie, ce qui prive la Russie des très précieux semi-conducteurs indispensables à la construction de véhicules, produits technologiques ou avions. Aux États-Unis, les échanges commerciaux sont limités dans les domaines dits stratégiques. Les avions russes sont interdits de survoler le Royaume-Uni, la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Bulgarie, la Slovénie, la Roumanie, la République tchèque et la Moldavie. Ainsi, les compagnies russes sont obligées de faire de très importants détours pour desservir le reste de l'Europe. C'est même maintenant devenu presque impossible. Et aussi, en ce moment, deux avions de KLM en route vers Moscou et Saint-Pétersbourg font demi-tour. Plusieurs compagnies ont également suspendu leurs vols, comme IAG, la maison mère de Iberia, la compagnie espagnole, et British Airways. On a également Air Baltic et Air France réduit par deux le nombre d'avions vers la Russie. La délivrance de visa pour les citoyens russes est suspendue par le Japon, la Lettonie ou la République tchèque. La Suisse veut garder son statut de neutralité et n'imposera aucune sanction. Cependant, elle s'assurera qu'elle ne devienne pas un refuge pour éviter les sanctions. Des mesures plus originales ont également été prises, comme exclusion de la Russie du concours de l'Eurovision. Mais ce qui ne plaît pas à la Russie, qui demande à l'ensemble de ses médias de se retirer de l'Union Européenne. Plusieurs chaînes de télé en l'ont déjà fait. Il est probable que RT et Sputnik fassent la même chose. Le CIO demande à toutes les fédérations internationales de retirer leurs événements de Russie. C'est déjà le cas pour la Coupe du Monde de ski alpin à Sochi, enfin des épreuves, les Grands Prix de Formule 1 de Moscou qui doivent avoir lieu en septembre prochain, la finale de la Ligue des Champions déplacée de Saint-Pétersbourg au Stade de France. Pas encore citer le déplacement des Olympiades d'échecs qui devait avoir lieu à Moscou.
Ça te fait rire.
Oui. Alors, on a également le dossier d'adhésion de la Russie à l'OCDE a été supprimé. Également, un certain nombre, toutes ces mesures concernent aussi...
C'est quoi l'OCDE ?
L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement, économique.
Non, mais c'est bon de le rappeler, tout le monde ne sait pas forcément.
Exactement.
Et qui fait partie de l'OCDE ?
Bah, les pays développés.
Voilà.
Donc, on a une grande partie de l'Europe, l'Amérique du Nord, quelques pays d'Amérique du Sud, comme... la Colombie ou le Chili, on a également le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Et pas mal de pays veulent rejoindre, notamment le Brésil, l'Argentine, l'Indonésie, je crois les Philippines, certain nombre de ces pays-là. Ensuite, et puis il y a également le système d'information. Un certain nombre de pays veulent éjecter la Russie du système SWIFT, qui est qualifié de bombe nucléaire financière.
Alors, c'est quoi SWIFT, justement? Parce que ce qu'on entend, ce qu'on lit, en tout cas, c'est que si, en gros, on enlève du système SWIFT la Russie, bah, en fait, là, la guerre s'arrêterait, puisque déjà, il y avait eu cette menace, en fait, faite contre la Russie, et que, du coup, ça avait fonctionné.
En 2014.
Voilà, merci. Ouais, c'était exactement ce que je cherchais. Donc, qu'est-ce que c'est ?
Alors, SWIFT, c'est une entreprise belge qui regroupe à peu près plusieurs dizaines de milliers de banques. Et c'est le système, une sorte de messagerie qui permet d'échanger toutes les informations entre les banques du monde. Et sauf qu'un certain nombre de pays étaient favorables à cette éjecter la Russie, notamment la France, les États-Unis. Sauf qu'un certain nombre de pays étaient, on va dire, réticents. Et au fur et à mesure, un par un, soit ils disent qu'ils sont carrément devenus pour, soit ils disent qu'ils ne vont pas s'y abstenir, s'y opposer. Notamment, il y a Chypre, un pays de l'Union Européenne. On a également l'Italie, qui eux disent qu'ils sont maintenant carrément devenus pour. Ensuite, on a eu l'Allemagne, qui est encore un peu réticente sur le sujet. Notamment le ministre des Finances, qui se dit pour. Or, la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, est plutôt contre parce qu'elle a peur que ça prive l'Allemagne du charbon. Mais pour l'instant, il y a encore l'Allemagne qui est dans cet entre-deux. Et la Hongrie qui vient de dire, je crois, il y a quelques heures, qu'elle ne s'y opposera pas non plus.
D'accord.
Et d'après un banquier central européen, l'injection du système SWIFT devrait avoir lieu dans les prochains jours.
Donc ça semble évident que ça va se faire.
Voilà, il reste
donc,
juste
ce
la
sera
position...
magique parce que juste avant les JO paralympiques...
Non, c'est
coup,
une bombe nucléaire
la guerre va s'arrêter.
Magnifique.
Romain.
Je ne sais pas si tu avais dit pour la suspension de la participation russe au Conseil de l'UE.
Ah non, au Conseil de l'Europe.
Conseil de l'Europe, excuse-moi.
Voilà, et aussi il y a Daniil Medvedev. Non, Medvedev, oh je ne sais plus.
Ils s'appellent tous Medvedev, non je dis
pas. Enfin Medvedev, qui est l'ancien président russe, qui est à peu près entre 2008 et 2012, qui dit que c'est une bonne occasion de remettre la peine de mort en Russie.
Ah oui, carrément. Et puis, il y a eu l'arrêt des collaborations russo-italiennes avec le vaccin anti-Covid Sputnik, et ce qui va encore être utile de toute façon, et la déclaration d'une cyberguerre du collectif Anonymous contre la Russie. Donc, c'est très joyeux comme ambiance.
Oui, comment
après, j'ai pas parlé de la Chine et de l'Inde. Alors, pour la Chine, c'est toujours un peu louche. Pour l'instant, elle a rien. Elle a
non,
rien.
Pour la Chine, elle ne se prononce pas pour l'instant.
Pour l'instant.
Oui.
Mais elle n'a pas non plus dit qu'à l'amplifier ses relations. De même pour l'Inde, où le statut est encore plus intermédiaire, vu qu'elle a peur de la Chine. Et si... Mais en même temps, elle devient de plus en plus proche des Occidentaux. Elle est un peu confrontée face à un dilemme. Elle veut s'armer face à la Chine, donc elle va du côté russe pour avoir pas mal d'armes, sauf qu'en fait, les Occidentaux veulent. Mais elle fait ça en même temps pour plaire aux Occidentaux. Elle joue un peu sur trois plans. Elle veut pas aller du côté de la Chine. Elle est trop dépendante de la Russie pour plaire aux Occidentaux. En fait, il est probable qu'ils disent que les Occidentaux seraient entre guillemets en train de faire une porte de sortie pour que l'Inde les rejoigne. Une sorte de montage pour s'assurer qu'elle soit plus dépendante des armes russes. Notamment en la France qui serait prête à vendre encore plus de rafales et de sous-marins que prévu pour remplacer notamment certains chasseurs russes.
Romain.
Savoir aussi, je sais plus si c'est toujours le cas, mais l'Inde fait pas partie de l'organisation du Commonwealth.
Je sais plus.
Oui.
Qui est quand même une organisation. Et qui est quand même une organisation internationale qui réunit les pays alliés au Royaume-Uni.
Les anciennes
colonies de l'Empire britannique et donc du coup qui est une alliance occidentale.
Occidentale, fondée par des occidentaux mais qui regroupe majoritairement pas des pays occidentaux, enfin même si le Canada. Donc, on parlait de dons d'armes pour l'Ukraine. Les États-Unis donc sont le plus grand donateur d'armes puisque ils ont annoncé, il me semble, le 23 février, si j'ai bien retenu, une aide militaire à hauteur de 180 millions d'euros face à l'offensive russe. Qui comporte notamment des missiles anti-chars, des lance-grenades.
54 États, le Commonwealth, pardon.
Non, c'est 53. Soyons précis.
Tu m'aurais demandé, j'ai eu un oral d'anglais cette semaine.
Bah, il a demandé.
Ah bon? Bah, 54
écoute,
États, Marius.
Écoute ton collègue. Excuse-moi, Marius.
Donc, lance-grenades, mortiers, obus et munitions légères. Ne me demandez pas ce que c'est. Et donc,
des fusils, non? Des munitions légères? Corentin.
Oui, sans doute,
ouais, je pense.
Corentin, moi, dès que j'ai une question, Corentin.
Le Canada aussi a annoncé investir 7 millions d'euros pour aider l'Ukraine militairement. Et oui, je crois que c'est ça. Enfin, une aide à hauteur de 7 millions d'euros.
Il vaut mieux être sûr hein, quand on annonce une information.
Oui.
Donc ?
Donc, une aide.
Ok.
Voilà. Je m'en tiens à ça. Une aide à hauteur de 7 millions d'euros. Et la Lituanie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont annoncé aider militairement l'Ukraine. Et l'Allemagne refuse d'envoyer des armes en Ukraine. Elle envoie néanmoins 5000 casques. La France envoie des tentes en Ukraine, mais n'a pas encore annoncé d'aide militaire. Voilà.
Une réaction, Corentin ?
Ah oui. Sauf que... Non, en fait, je cherchais pour d'autres... Parce qu'il me semblait qu'il y avait aussi d'autres
sanctions. Tu l'as pas écouté, c'est ça que tu veux dire?
Oui, j'étais...
C'est pas grave, Romain. Continue.
Bah, c'est beaucoup. Mais
oui.
Et de ce côté, l'Ukraine demande... Alors, je sais plus. C'est depuis hier soir que tous les hommes de 18 à 60 ans sont interdits de quitter le territoire. Pour servir de renfort aux troupes ukrainiennes contre la Russie et à appeler tous ceux qui le souhaitaient en Europe à se mobiliser.
On fait pause musicale ?
Petite pause musicale.
Une petite pause musicale et on continue dans la joie et la bonne humeur avec la fin du monde des Dirt Bomb.
Yeah. T'as vu la suite de l'actu ?
Et la suite de l'actu, c'est toujours en compagnie de Marius, Romain et Corentin. Et nous parlons du coup de la guerre en Ukraine. Et alors que Corentin nous parlait des sanctions faites contre la Russie, il en a oublié.
Oui, mais j'ai oublié celle de la France, c'est quand même plus important.
Bah non.
Non. Si, pour nous.
Bah, pour nous, on est des Français avant tout.
Non, bon, on est des Européens aussi, on peut dire. Oui. On est des habitants.
Alors
du
déjà,
aussi.
On s'est aligné sur les sanctions de l'Union Européenne, logique. Et
Ah bah logique, ça, on sait pas.
Oui, parce que des fois, il y en a qui respectent
pas. Bah c'est
pas.
Quand même nous, le chef de l'Europe, jusqu'au non. 31 juin. 30 juin.
Oui, enchaînons.
Quoi ?
Oui, oui, bien sûr.
Oui, tu vois, on est le chef, quoi.
Oui, oui.
Ouais.
On tape du poing sur. Alors, je crois que il a été Jean Castex a demandé au, enfin, à ses services, enfin, ministère de l'économie, tout ça, de faire la liste de l'ensemble des biens détenus par les Russes en vue d'une possible perquisition.
Ah oui.
Enfin.
Ah oui.
Plutôt
ah,
récupérer tous les biens qui appartiendraient à des Russes. Donc là aussi, notamment parce que bah, y a quand même un certain nombre de. On va dire, sans tomber dans le cliché, de villes là, qui a, sur la Côte d'Azur, qui appartiennent à des Russes, ou également, je crois, non, je crois pas que c'est en France, il y a également, en Allemagne, par exemple, des clubs de foot, un certain nombre de choses, enfin, qui, enfin, en France, le but, c'est surtout les biens immobiliers en vue d'être plutôt réquisitionnés, plutôt que perquis. Mmh. Voilà.
Ok. C'était important de le préciser.
Voilà.
Marius.
Toute petite information. L'ambassade de France à Kiev a annoncé qu'elle était en contact avec 700 ressortissants en Ukraine. Et pour l'instant, les ressortissants français en Ukraine sont appelés à rester chez eux et à ne pas sortir du territoire ukrainien. Voilà.
Corentin ?
Oui, et que l'ambassade de France en Ukraine est presque la seule qui est restée à Kiev, mmh. Alors qu'un certain nombre sont partis à Lviv.
Lviv.
Comme ça, Lviv. Mmh. Bref, c'est L-V-I-V. D'autres sont carrément partis en Pologne, et que la France a également envoyé, je crois, 8 membres du GIGN oui. Pour protéger l'ambassade. Donc c'est presque la France, le seul pays qui reste à Kiev, et qui a envoyé, envoyé avec des gros guillemets, des troupes en Ukraine.
Est-ce que... Oui, pardon, je
t'ai coupé. Et elle a également proposé... Non, mais vas-y, au pire, dis ce que tu... Je vais aller...
Non, non, non.
Vas-y. Non, mais vas-y, continue.
Non, 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 non.
Non. Et puis, elle a proposé aussi à Zelensky un plan pour l'exfiltrer
ah oui
de l'Ukraine. Oui, c'était le plan. Oui, il a été dévoilé. C'était de le déguiser en agent du GIGN et en fait de dire qu'on évacue l'ambassade de France en Pologne et de le mettre dans le groupe du
dans
GIGN.
Dans un cheval, non ? Dans le cheval de Troie ?
Non, non, de le déguiser en agent du GIGN, ça il serait bien protégé. Tu vois, il aurait des casques, un gilet pare-balles et comme ça, il serait fondu dans la masse pour le... Sauf qu'il a refusé. Les États-Unis lui ont aussi proposé et il lui a répondu, j'ai besoin d'armes, pas d'aller faire un tour.
Très bien. Est-ce qu'il s'est passé d'autres choses, là, pendant cette émission ?
Alors, si on regarde, il y a notamment le ministère de la Défense russe qui ordonne à l'armée d'élargir l'offensive. Bon, après, ça veut tout rien dire.
Oui, c'est ça. Très bien. Comment vous voyez la suite de ce conflit, Marius ? Tu as 2 heures de copie double.
Alors, bah, je vais écrire, du coup.
Non, c'est moins pratique en radio.
Bah oui, c'est pas très radiophonique. Alors... comment je bah malheureusement bah après ce qui s'est passé c'est difficile d'être optimiste puisque on sait très bien que l'objectif de la Russie c'est d'envahir l'Ukraine. Après l'avenir il dépend que des alliés. Si nous on fait rien, bon l'objectif des Russes sera atteint, l'Ukraine sera envahie, le président Zelensky bah sera arrêté et vu comment les Russes traitent leurs opposants bah tués. Et pareil pour sa famille qui, selon le président Zelensky, est la cible numéro 2 des Russes après lui. et comment et donc s'il y a aucune réaction, s'il ne se passe rien, s'il y a aucune proposition concrète qui fonctionne de la part des alliés, eux-mêmes d'ailleurs les alliés de la Russie pourraient faire changer des choses. Bon, c'est pas forcément ce qui est souhaitable, mais ça pourrait aussi jouer, puisque parmi les alliés il y a la Syrie qui sans cesse, dès qu'il se passe quelque chose, se montre favorable aux agissements des Russes. Et donc ça dépend pas de l'Ukraine, parce que l'Ukraine l'Ukraine a besoin des autres. Le changement,
c'est juste vital, hein, en fait, pour l'Ukraine. Hein, faut qu'elle.
Ah oui, oui. Mais le changement
pour sa défense, elle est obligée.
Le changement de ce qui peut se passer, la défense, ça peut pas venir que des Ukrainiens, uniquement des Ukrainiens, parce que ça ne peut pas arriver. Enfin, il doit y avoir une aide extérieure.
Il y en a déjà une,
oui,
avec
non,
les armes.
A, oui, oui, je sais bien, mais enfin voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, oui, la désescalade et peut-être l'abandon de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, peut se passer que si les alliés puissants, d'ailleurs, parce que quand même parmi les alliés de l'Ukraine il y a le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, même si l'Allemagne n'a pas l'arme nucléaire, je crois.
Non,
bon, ça reste quand même un allié économique puissant, et la France, il y a la France et le Royaume-Uni. Et donc c'est grâce à ce genre de pays, si on peut, c'est grâce à ce genre de pays qu'on pourra faire arrêter cette guerre.
Romain.
Oui, puis y a aussi une sorte de volonté de faire parler la diplomatie, même dans ce genre de crise, avec une proposition hier d'une disposition. D'envoyer une délégation russe en Biélorussie pour faire des pourparlers avec l'Ukraine. Donc, j'avais cru voir que l'Ukraine avait accepté les propositions de pourparlers, mais en même temps, il y a les alertes occidentales, et notamment les États-Unis, qui doutent de la sincérité de cette volonté de pourparlers. Et en même temps, il y a la Hongrie qui propose d'accueillir les représentants des deux pays à Budapest pour un sommet diplomatique. Donc à voir.
Corentin ?
La Russie a proposé aussi que ce soit Israël qui fasse les pourparlers, parce qu'elle dit que c'est le pays occidental qui a à peu près les relations les plus neutres entre
c'est
les
vrai.
Deux pays.
Oui, oui, parce que la Russie entretient de très bonnes relations avec... Israël entretient de très bonnes relations avec la Russie.
Et puis aussi avec l'Ukraine, c'est à peu près neutre, quoi. Mmh. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ?
Ça va peut-être revenir, tic-tac, tic-tac. Donc toi, tu vois les choses comme ça ?
Bah non, et en fait, après, je vais dire aussi un truc que j'ai vu, c'est notamment selon... Enfin, je vais un peu lire là. Selon une information remontant des services ukrainiens, Poutine est furieux. Il pensait que toute la guerre serait finie et que la guerre serait finie.
En 24
heures. Non, que toute la guerre serait facile et que tout serait fait en à peu près 1 à 4 jours.
Oui, il pensait que Kiev, en fait, serait soumis en 24 heures.
Puis les Russes n'avaient pas de plan tactique. La guerre leur coûte environ 20 milliards de dollars par jour. Sachant qu'ils ont 600 milliards de dollars de réserves qu'ils ne peuvent plus emprunter nulle part. Il y a des roquettes pour 3-4 jours au plus, il les utilise avec parcimonie, il manque d'armes, les usines ne peuvent physiquement pas répondre aux commandes d'armes, les fusils et les munitions sont le maximum qu'ils peuvent faire. Les prochaines armes ne peuvent être produites qu'en 3-4 mois, et ils fournissent principalement par la Slovénie, la Finlande et l'Allemagne, on voit mal l'Union Européenne les suivre. Ensuite, si l'Ukraine parvient à tenir les Russes à distance pendant 10 jours, alors les Russes devront entamer des négociations car ils n'ont ni argent, ni armes, ni ressources.
Et tu cites ça vient d'où ?
C'est ça à peu près. Je ne sais pas trop comment expliquer.
Ah oui, merci du cadeau, Corentin. vas-y, continue. Ah oui, alors c'est Global Intel, en fait.
C'est à peu près. On peut retrouver à peu près les mêmes sources sur d'autres.
Global Intel Live, en fait, c'est
une sorte de média indépendant.
C'est
disons,
ça.
Qui sont après.
Mais c'est important, comme là, on a vraiment cité leur.
Oui, voilà, on les cite. Donc c'est une sorte de média indépendant et qui sont repris ensuite par d'autres médias. Après. Voilà, je pense qu'il faut aussi prendre ça avec des pincettes, faut pas non plus.
Non, pas forcément, mais du coup, comme on les, quand même, on.
Oui, non, mais je dis comme toutes les informations qu'on a dit, je pense qu'il faut prendre ça avec du recul sur certaines choses.
Qu'est-ce qu'il y a, Marius ?
Non, non, rien. C'est absolument rien. Enfin bon. En fait, j'essaie de trouver une carte qui peut montrer comment se positionnent les pays et une carte globale, enfin du monde, quoi, avec qui sont les alliés des Russes, et parce que, enfin, j'ai un peu de mal à cerner. Bah, je sais que l'Union européenne est contre. Enfin, globalement, l'Union européenne se montre défavorable à l'invasion, mais bon, il y a des pays neutres aussi au sein de l'UE, donc.
Est-ce une tentative de Vladimir Poutine de faire cela aussi pour remettre Donald Trump à la présidence américaine ?
Oh, ça m'étonnerait.
Moi, je trouve vachement que Trump, il a pas été si proche de Poutine qu'on le dit.
Ah.
Tu vois, quand ils ont dit, on s'attendait vraiment à une sorte de lune de miel entre les deux. Bah, c'est bien comme expression. Et qu'en fait, bah, c'est pas été. Voilà.
Oui,
a été dans la continuité de tous les autres de dire, limite, remettre un peu la guerre froide en jeu en disant, c'est moi la puissance, tout ça. Il a pas été si proche que ça qu'on aurait pu l'imaginer.
Donald Trump a salué la stratégie de Poutine dans son invasion en Ukraine, même s'il a désapprouvé son acte.
Oui, parce qu'il a quand même dit que s'il avait été président, tout se serait mieux passé et jamais il y aurait eu d'invasion. Donc ça fait vraiment avancer le schmilblick.
Romain.
Alors, à savoir aussi qu'il y aura aussi... même si, bon, ça a déjà commencé sans avoir besoin de ces événements. Mais il va y avoir des conséquences économiques importantes, notamment en France, avec le prix du gaz, du pétrole.
Sur l'agriculture également.
Oui, du pétrole qui a augmenté à 100 dollars, qui a passé la barre des 100 dollars hier. Oui. L'agriculture, notamment le prix des céréales. Le prix de l'huile de tournesol, des pâtes.
En même temps, c'est pas bon pour la santé, l'huile de tournesol. Arrêtez.
Ouais, et pour l'environnement aussi.
Non, mais c'est vrai, c'est une hérésie.
Et puis, je pense que pour l'instant, c'est tout.
Mais il faut prendre de l'huile de colza ou de l'huile d'olive. C'était l'instant cuisine de cette émission. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce sujet avant qu'on se quitte ?
Non.
Je pense qu'on a fait le tour.
Restez informés.
Et donc, on se quitte en musique. Le morceau choisi, du coup, par Marius, s'il veut bien nous le présenter.
Ah oui, alors, c'est une chanson de Stromae qui s'appelle Peace or Violence. Et voilà.
Et on vous quitte dans la tribu. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et on dit quoi ?
À samedi.
À bientôt.
À samedi.
À samedi.
Restez sage, mais pas trop.
Ouais. C'est toi qui le dis d'habitude.
Bah justement, oui, là, vous pouvez le dire, non ?
Non,
non, okay.
C'était non, restez sage tout court.
C'était pas envisageable.
J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés. Leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? C'était la même, parce qu'il fallait me faire une idée. On m'a traité de pessimiste avec des mots à me suicider. Et j'ai insisté, et encore j'insisterai. Mais apparemment, selon les grands, c'est long à exprimer. Ça prendra le temps, qu'il faudra le temps. Mais finalement, je le saurai. Dans 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, mais j'espère avant de crever. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Serait-ce un signe de paix ou bien le fait de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien le fait de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance?